troisième temps de notre série titrée « Sous le vernis de la Renaissance, ce matin, la mondialisation des savoirs à cette époque ». Lundi, avec Didier Le Fur, nous avons tenté de raconter le parcours de Diane de Poitiers, légende de la Renaissance française. Puis hier, nous vous avons proposé de plonger dans un documentaire signé Victor Massel d'Épinay et Anne Fleury sous le vernis de la bataille de San Romano, le chef-d'œuvre de Paolo Uccello. Demain, nous vous parlerons des guerres d'Italie et de la guerre à la Renaissance. Et aujourd'hui, avec Victor Massel d'Épinay qui a préparé cette semaine avec nous, nous allons nous demander comment hommes et femmes de cette période ont su allier savoirs antiques et savoirs nouveaux issus des explorations des 15e et 16e siècle. Nous le ferons en compagnie d'Antonella Romano, directrice d'études à l'École des études en sciences sociales, directrice du centre Coiré et auteur récent d'Impressions de Chine, l'Europe et l'englobement du monde, 16e-17e siècle, publié chez Fayard et dont elle était venue parler il y a quelques mois à la Fabrique de l'Histoire. Et nous serons également avec Uri Goldman, doctorant à l'École des études en sciences sociales, qui prépare une thèse dont le titre provisoire est « Faire connaître le monde au 16e siècle ». Bonjour Victor Massel d'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Uri Goldman.
Bonjour.
Et bonjour à vous Antonella Romano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on sait depuis que cela a été énoncé par Benedetto Croce entre autres que toute histoire n'est que contemporaine. Et évidemment si on travaille sur les mondialisations du savoir au XVIe siècle et à la Renaissance, c'est parce que peut-être cette question de la mondialisation travaille en profondeur nos sociétés européennes et occidentales et peut-être même mondiales. Aujourd'hui Antonella Romano, cette question de la mondialisation des savoirs, vous qui travaillez depuis longtemps sur ces questions, vous l'avez vu émerger il y a déjà pas mal de temps. Ça n'est pas tout à fait nouveau.
Non, ça n'est pas tout à fait nouveau. Peut-être que ce qui est nouveau, c'est la capacité qu'on a pu avoir en travaillant de points de vue extrêmement différents à s'accorder autour de la notion même de mondialisation. Il me semble qu'on peut toujours créer des généalogies a posteriori, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Beaucoup de collègues ont travaillé depuis de très nombreuses années, dans beaucoup de domaines, en histoire des sciences aussi, et peut-être de manière privilégiée, sur les rencontres des mondes par les savoirs entre le 15e et le 16e siècle, aussi au-delà. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est confronté à un paradigme historiographique fort qui nous permet de réfléchir à tout ça autrement.
Et en quoi, justement, est-il différent de ce qu'on pratiquait auparavant ? C'est-à-dire que vous nous dites, en fait, que ces travaux sont des travaux anciens, mais que peut-être il n'y avait peut-être pas cette structuration, pourrait-on dire, que mondialisation des savoirs permet de mettre ensemble des travaux qui, apparemment, au départ, paraissaient un peu épars.
Oui, bien sûr. Alors, il me semble que ce qui est le point fondamentalement nouveau de ce que permet la notion de mondialisation, c'est une capacité de décentrage vis-à-vis de l'Europe. Beaucoup des travaux dans le monde européen occidental sont nés et se sont ancrés dans une réflexion sur l'Europe et le monde. Alors, évidemment, c'est fondamental. Moyennant quoi, ça ne permet pas nécessairement de penser en termes de mondialisation, si vous le voulez, pourquoi pas, parce que ça met, cette perspective, si vous voulez, elle pose d'emblée la centralité de l'Europe dans un rapport, on va dire, de type diffusionniste. Ce que on fait aujourd'hui est beaucoup plus complexe, parce que ça ne pose pas par définition, l'Europe au centre des dispositifs, premièrement. Parfois, ça la met à l'écart. Ça peut être tout à fait important. Ou en tout cas, ça la montre comme un des espaces possibles de phénomènes qui sont, eux, d'échelle globale.
Victor Massé de Lépinière.
Est-ce que ce changement d'échelle doit nous amener aussi à remettre en question ce mot de renaissance, puisque nous consacrons notre semaine à la Renaissance? C'est quelque chose, c'est une idée qui n'est pas toute neuve aussi, mais l'idée que cette Renaissance, c'est un mot qui est nécessairement européo-centré, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte au début de notre conversation.
Oui, absolument. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et par rapport au thème qui vous anime cette semaine, que je trouve tout à fait remarquable du reste, c'est effectivement ce qui est en jeu. Qu'est-ce que ces horizons d'analyse nous permettent de redire ou d'ajouter au grand débat sur cette catégorie historiographique de Renaissance?
Oui, ce sont des questions qui ont été posées par des médiévistes, par exemple, Uri Goldman, comme Jacques Le Goff, quand il a imaginé le long Moyen-Âge qui pouvait peut-être nous conduire jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, avec des catégories qui sont des catégories sociales qui n'ont peut-être pas fondamentalement été bouleversées par la découverte des mondes nouveaux du XVe, XVIe siècle. Et donc, effectivement, on se repose ces questions. Patrick Boucheron, au Collège de France, fait un cours sur les pouvoirs, et ces pouvoirs, ils ne sont pas des pouvoirs médiévaux, alors qu'il est spécialiste d'histoire médiévale, mais ce sont des pouvoirs qui peuvent courir jusque sur le XVIe siècle, voire peut-être jusqu'à l'orée du XVIIe siècle, Uri Goldman.
Effectivement, je pense qu'il y a eu deux manières peut-être de contester cette catégorie de la Renaissance. Cette première dont vous parlez, qui est peut-être issue plutôt des médiévistes, mais qui reste du coup quelque part assez européenne justement, hein, et qui insiste effectivement sur les permanences, disons, des grands traits de civilisation,
sociétés.
Effectivement, un monde rural, avec des horizons plutôt limités, une segmentation sociale, etc. Mais il y a une autre manière qui est peut-être portée par la mondialisation des savoirs, qui peut remettre en cause ou reconfigurer cette notion de renaissance, c'est l'idée peut-être qu'il y a plusieurs renaissances, ou des renaissances au pluriel. Ça, c'est par exemple le titre d'un livre de Jacques Goudy, qui n'est pas forcément sur tout point excellent, mais qui...
Anthropologue, donc,
mais qui justement... Mais
qui est venu sur les terrains, justement,
voilà,
des historiens, des historiennes.
Et qui essaye de voir avec d'autres l'idée qu'il y aurait une synchronicité, en fait, dans plusieurs parties du monde, de ces mouvements de renouveau des sciences, des arts, et qui finalement ne serait pas le seul fait de l'Europe, mais qu'on pourrait le retrouver en Inde, dans l'Empire ottoman, dans d'autres espaces. Et donc, quelque part, on garderait cette catégorie de Renaissance, mais on lui ferait perdre sa spécificité européenne.
Victor Massé de Lépinière.
Ce qui est intéressant, c'est de dire aussi maintenant que cette idée de Renaissance, elle n'est pour autant pas née au 19e ou au 20e siècle. Dès le 16e siècle, par exemple, enfin en particulier au 16e siècle, il y a l'idée que s'opère une bascule dans une nouvelle époque. Et cette idée-là, on a souvent dit que la Renaissance était une construction historiographique. Or, en fait, c'est une construction contemporaine peut-être des grandes découvertes ou en tout cas d'un élargissement du monde.
Uri Goldman.
En effet, je pense que quelque part, la catégorie la plus historiographique, finalement, c'est peut-être celle de Moyen-Âge, moins celle que de Renaissance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc cette catégorie de Renaissance, bon ça, ceux qui travaillent sur les humanistes l'ont bien montré depuis longtemps, qu'effectivement eux-mêmes, ces humanistes du 14e, 15e, 16e siècle, avaient construit leur propre récit d'une Renaissance basée sur la redécouverte des textes anciens, le dépassement de cette période de ténèbres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le type de discours qui est utilisé par ceux qui réfléchissent sur les grandes découvertes ou l'élargissement de l'horizon, il reprend en partie la rhétorique de ces humanistes, hein, sur l'idée effectivement de cette période cachée, d'un retour, d'un dépassement du savoir qui précédait. Et finalement, on a des logiques assez similaires, et peut-être ça a été moins vu.
Oui, une des questions peut-être, Antonella Romano, c'est de se dire, voilà, comment pensent ces hommes et ces femmes de cette période dite de la Renaissance, comment envisagent-ils l'expérience qu'ils sont en train de vivre, l'élargissement du monde? Parce qu'il y a tout de même, en tout cas pour les Européens, un élargissement du monde à cette époque-là, Antonella Romano. Et donc, comment font-ils pour pouvoir concilier cette plongée dans l'histoire et dans le passé qui les fait se dire héritiers du monde antique ou redécouvreurs du monde antique, en même temps qu'ils font une plongée dans l'espace qui les conduit à découvrir de nouveaux mondes, Antonella Romano?
Oui, merci. La manière dont vous présentez les choses est en effet extrêmement intéressante. Hein. Il y a cette tension entre une mise en œuvre à travers les textes, et de ce point de vue-là, je pense qu'on aura l'occasion de dire un mot du rôle de l'imprimerie dans ces processus de montée d'un discours qui réunit un monde qu'on va appeler la République des Lettres ensuite, etc. Et Donc tension entre le penser ces choses et le vivre et l'agir. Il me semble que la tradition dont nous venons, qui est celle des études sur la Renaissance, a énormément bâti ses analyses sur les textes. Mmh. Et donc sur ces constructions, pas nécessairement historiographiques, comme vous nous l'avez dit très justement, mais véritablement par les acteurs du temps. Alors, à partir de ça, deux remarques. La première, c'est que ceux qui ont pensé ces choses n'ont pas nécessairement bougé. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont bougé.
C'est-à-dire qu'on a pu leur apporter des savoirs absolument. De loin qui sont venus absolument. Jusqu'à eux.
Voilà, absolument. Alors, après, certains d'entre eux ont aussi été des acteurs de la mobilité.
Hein. Et, ceux qui bougeaient n'étaient pas forcément ceux qui pensaient le plus.
Ceux qui écrivaient ou ceux qui ont construit.
Ou ceux qui ont construit l'idée.
Cette idée-là. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, aujourd'hui, et je crois que c'est une des très belles choses de la thèse d'Henri Goldman en particulier, c'est que on est beaucoup plus intéressé aujourd'hui à la manière dont tout cela s'articule. À travers une série de pratiques qui incluent du coup les pratiques du voyage et leur mise en texte, pas que leur mise en image aussi, ça c'est une composante absolument fondamentale. C'est pas uniquement pour faire le lien avec l'émission d'hier, je crois que ce sont des éléments absolument. Et du coup, ça nous permet de reprendre le travail sur comment ces processus véritablement sont mis à l'œuvre par des pratiques.
Victor Massé-Lépinet.
Et alors, puisqu'on a évoqué un petit peu la redécouverte des anciens, il y a cette première question qui se pose avec les anciens, si les découvertes de ces voyageurs, comme le dit Lévi-Strauss, certains voyageurs vont moins découvrir le Nouveau Monde que de vérifier l'actualité de l'ancien ou la validité de l'ancien. Et quand on découvre de nouvelles choses, avec les lectures des anciens dans ces bagages, on est obligé de constater qu'il y a un décalage. Et donc, les anciens vont rester une référence, peut-être aussi parce qu'ils posent un cadre dans lequel on pense la nouveauté. Mais il va y avoir aussi, dès le 15e et le 16e siècle, une façon de tourner en dérision ou de se moquer, qui va même devenir quelquefois un peu systématique, une sorte de mode de se moquer des auteurs classiques.
Oui, Goldman.
En effet, il est certain que le mot déjà de découverte, quelque part, est une construction et pose l'idée, effectivement, découverte par rapport à ce qui est inconnu. Et ce qui est inconnu, c'est justement les limites de ce savoir ancien qu'on redécouvre ou qu'on redéfinit à la Renaissance. Et donc, nombreux de ces humanistes qui vont en même temps, effectivement, comme vous le dites, peuvent railler ou être critiqués les limites de ce savoir ancien, en même temps se posent comme les seuls à pouvoir justement poser les limites de ce savoir, puisque en même temps, c'est eux qui ont acquis la nouvelle étendue. Donc c'est seulement parce qu'ils savent et ils ont redécouvert toute l'étendue de ce savoir ancien qu'ils peuvent aussi en définir les limites. Donc on est dans une dialectique qui n'est pas simplement une opposition ancien-moderne ou humaniste et homme de la pratique, comme seraient les marins, etc., mais plutôt dans une interrelation qui est centrale dans la construction de ce discours.
Oui, on sait, quand on travaille sur l'histoire des sciences, ça nous est rappelé de temps en temps par des auteurs qui travaillent sur ces sujets-là, qu'on partait avec Pline en poche, d'une certaine façon, quand on partait découvrir les mondes nouveaux, et que, évidemment, ceux qui partaient à la découverte de ces mondes nouveaux, Antonella Romano, s'apercevaient que ce que Pline racontait dans son histoire naturelle ne correspondait pas forcément à ce qu'ils avaient sous les yeux, aussi bien pour les plantes que pour les animaux. Et donc, d'une certaine façon, ils étaient bien obligés de s'apercevoir qu'il y avait un petit problème, en tous les cas, Antonella Romano.
Oui, bien sûr. La question de savoir avec quel type de bagage partaient ces gens, par exemple, est une question relativement nouvelle. Pas au sens où on l'aurait inventée aujourd'hui, mais au sens où on l'apprend tout à fait au sérieux. Hein. Et du coup, on est amené...
Avec quoi par Christophe Colomb et les gens de Christophe Colomb à la découverte de ce monde nouveau.
Voilà. Alors, ils ne partent pas à la découverte d'un monde nouveau,
non,
comme vous
sûr.
Savez. Ils partent chercher quelque chose avec un équipement, on va dire.
Intellectuel.
Cet équipement, il est intellectuel. il est matériel.
Bien sûr. Hein,
c'est tout à fait important. Et il est et c'est dans l'articulation, je pense aujourd'hui, de la dimension intellectuelle et de la dimension matérielle qu'on arrive à saisir de manière plus précise, peut-être plus au cœur du travail, comment les choses se font. Donc je pense que d'une part, il faut pas exagérer l'idée que tous ces gens qui partent sont des gens qui partent équipés intellectuellement de la même manière.
Oui.
Par rapport à ça, je crois qu'il faut qu'on soit très très clair, parce que la plupart des gens qui partent, ce sont des gens ordinaires qui sont dans des logiques de mobilité qui ne vont pas en quête de savoir. Hein. Et puis, il y a des acteurs spécifiques qu'il faut...
C'est pas l'expédition de Bonaparte en Égypte.
Absolument. Hein. Voilà. On n'est pas dans ce genre de dynamique au XVe et XVIe siècle, et ça, c'est tout à fait important. Moyennant quoi, en effet, la confrontation de l'ancien et du nouveau, elle ne se fait pas uniquement dans le voyage, elle se fait aussi dans les matériaux qui sont ramenés et qui sont travaillés, élaborés, en particulier dans des centres européens, si on se place du point de vue d'une réflexion sur l'Europe dans ce moment-là.
Oui, et donc ça nécessite aussi, Uri Goldman, que chercheurs et chercheuses d'aujourd'hui collaborent et travaillent d'une certaine façon, parce que on peut découvrir et avoir travaillé dans certaines écoles historiques, par exemple, sur c'est un travail plus ancien sur ces questions justement d'échange, et se retrouver dans une autre école à ne pas avoir travaillé au même niveau dans ces questions d'échange de savoir et de connaissances, par exemple. Donc il faut faire des réseaux transnationaux aujourd'hui pour pouvoir mieux comprendre comment il y avait peut-être aussi quelques raison de faire des réseaux, vous travaillez là-dessus aussi, Uri Goldman, pour votre thèse, transnationaux qui dépassaient les questions qui n'étaient pas évidemment nationales à l'époque.
Oui, exactement. Je pense que justement, puisqu'à l'époque, il y avait une multitude de ces réseaux entre milliers sociaux, intellectuels, matériels, il est nécessaire aujourd'hui, en effet, peut-être de retrouver cette dynamique. Et sur la question de la matérialité, je pense que c'est très important parce que justement, ça a conduit peut-être plus que dans d'autres types d'histoires sur la Renaissance à une forme de séparation entre une histoire intellectuelle, culturelle de l'humanisme et une histoire économique, sociale et politique,
technique,
par exemple,
et technique.
Et technique des empires. Or, ce que je trouve intéressant, c'est que certains de ces humanistes qui écrivent à partir des textes anciens, ils sont aussi observateurs de la matérialité des transformations qui s'opèrent devant leurs yeux, même quand ils ne voyagent pas. Parce qu'il faut penser qu'à l'époque, par exemple, pour prendre le cas de la France, Paris ou Lyon, ce sont des cités marchandes où les épices...
Les marchés
ce sont d'abord des marchés.
C'est tout à fait évident que voir arriver des nouvelles catégories, pourrait-on dire, sur les marchés, c'est d'un seul coup comprendre que quelque chose est en œuvre et que ce quelque chose ne correspond pas à ce qu'on avait connu auparavant.
Voilà, ce n'est pas une pure opération intellectuelle qui dériverait d'une confrontation de textes dans un cabinet d'études, mais c'est aussi lié à leur vie sociale, à leur activité, à leurs échanges avec d'autres types de mondes sociaux, et je pense que ça, effectivement, c'est très important, même si ce n'est pas forcément évident à documenter pour toutes les situations.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
La Perra Mora de Pedro Guerrero, une danse profane populaire de la deuxième moitié du XVIe siècle, interprétée ici par l'excellent, évidemment, ensemble Hesperion 21 de Jordi Savall. Alors, Antonella Romano, si nous avançons dans notre discussion autour de cette mondialisation du savoir à l'époque de la Renaissance, il y a une question que l'on peut se poser, c'est tout compte fait, ceux qui nous ont laissé leurs textes qui nous permettent de travailler, ceux qui nous ont laissé même leurs témoignages dans les archives, sont peut-être les plus curieux de ceux qui vivaient à cette époque-là. Cette question de la curiosité est un biais formidable, parce qu'il y a ceux qui témoignent, qui laissent une trace, parce qu'ils sont curieux, parce que, comme l'explique Uri Goldman, eh bien, il faut à la fois entreprendre un voyage étrange en étrange pays et être curieux. Et puis d'autres, évidemment, ont fait ce voyage en étrange pays et ont laissé peu de traces. Peut-être ont-ils parlé à d'autres qui les ont retranscrite ces traces, Antonella Romano.
Alors, vous posez un problème qui est extrêmement délicat, hein, qui, dès lors que vous avancez cette notion de curiosité, dont vous savez qu'elle a été historiographiquement beaucoup travaillée, pour en faire un des ressorts de l'exceptionnalisme européen.
Évidemment.
évidemment. Mais bon, autant l'expliciter. Du coup, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur cette question et sur les traces, hein, que nous avons aujourd'hui de ces expériences de l'élargissement du monde, qui n'est pas un phénomène uniquement européen. Je crois que c'est quelque chose sur quoi il faut absolument insister. Beaucoup de nos collègues qui sont des phares dans ce domaine historiographique ont bien expliqué, me semble-t-il, que dans beaucoup de régions du monde, les Européens sont arrivés dans des mondes qui étaient déjà connectés.
Sanjay Subramaniam, par exemple.
Voilà. Absolument. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'il faut, et c'est là qu'il est intéressant de réfléchir à la manière dont se fabrique l'archive de l'histoire. Puisque il est vrai que nous disposons pour l'Europe d'énormément d'archives en fonction de quelque chose qui est totalement stupide de rappeler, mais qui est que les cultures européennes, à l'époque, sont des cultures écrites. Et que, du coup, c'est sans doute plus facile de conserver des traces. Voilà.
Surtout après l'invention de l'imprimerie.
Et surtout après la mise au point en Europe de l'imprimerie, puisqu'il n'y a pas d'invention de l'imprimerie en Europe, comme les gens de la Renaissance le savent très bien du reste. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a une asymétrie considérable dans la manière dont on a travaillé sur cette période à l'échelle globale. Et du coup, on a un foisonnement de sources européennes qui sont loin, du reste, d'être épuisées, d'où la nécessité de continuer à travailler sur elles, mais la nécessité aussi de multiplier les enquêtes sur d'autres espaces d'une manière sans doute plus active qu'on a pu le faire jusqu'à présent.
Victor Massé-Lépinet.
Mais si on reste pendant un petit moment encore sur nos sources européennes et sur les sources qui ont été produites en Europe, se pose aussi la question, alors on a évoqué l'imprimerie, de possibles sources qui auraient disparu parce que les écrits avaient moins d'intérêt ou parce que les écrits n'étaient pas imprimés et aussi pas traduits, puisque il faut aussi lier cette question de l'imprimerie à la question de la traduction, qui s'invente peut-être d'une certaine façon à la Renaissance également, puisque le mot « traduction » apparaît à ce moment-là, qui remplace « translatéré ». Peut-être que vous allez nous dire, Uri Goldman, ce que ça veut dire. Mais cette question de la traduction d'une langue vernaculaire à une autre, en gros, les récits de voyage portugais traduits en italien, en français et dans toutes ces langues vulgaires, est une question très importante pour ce XVIe siècle.
Encore une fois, on retrouve un peu avec la question de la traduction chose que vient de dire Antonella Romano, puisque ces phénomènes de traduction, de circulation entre langues, en fait, ils font, évidemment, ils remontent à plus loin et ils sont aussi, ils apparaissent de la même manière entre les textes persans et sanskrits à la même époque. Il y a aussi beaucoup de traductions, etc. Donc c'est pas forcément une spécificité européenne. Ce qui est peut-être plus spécifique, effectivement, c'est leur devenir comme biens de consommation, on pourrait dire biens de consommation culturelle, à travers l'imprimerie, qui justement transforme les conditions de mise en écriture et de lecture, et qui fait advenir des marchés à travers ces livres. Donc, et qui peut donner aussi cette impression peut-être d'une dissymétrie entre les mondes européens et les mondes extra-européens, alors qu'effectivement c'est peut-être plutôt une différence dans les modalités dans lesquelles on met en écrit et on conserve aussi ces écrits. Pour la question de la traduction, oui, en français, effectivement, c'est au XVIe siècle que on passe de se translater à traduire. On n'a pas forcément la même chose dans toutes les langues européennes, donc je ne sais pas s'il faut surinvestir ce mot-là, d'autant qu'il vient justement d'une mauvaise traduction d'un texte latin. Mais il est vrai qu'on observe à la Renaissance, à cause de l'accroissement de ces traductions entre langues européennes, des réflexions aussi sur le phénomène même de traduction et sur son importance.
Avec une traduction qui devient moins une sorte de mise en roman, une traduction qui est peut-être plus rigoureuse à ce moment-là, qui apparaît d'une façon plus, j'allais dire, méthodique ou scientifique.
Peut-être si on lit effectivement les traités sur la traduction, c'est ce qui apparaît. Mais encore une fois, c'est intéressant de toujours confronter ces textes très normatifs ou effectivement issus d'une tradition intellectuelle aux pratiques réelles, ce qu'on fait de plus en plus. Et là, on voit effectivement qu'il y a une extraordinaire diversité dans les pratiques de traduction, avec des modifications du contenu, mais même de la forme du texte, pour les adapter au public, aux attentes, pour aussi transformer même leur message politique. Et donc ça, c'est effectivement intéressant.
On voit bien, Antonella Romano, combien, à une époque où un grand programme d'études s'appelle Erasmus, cette question de la traduction, cette question du déplacement est une question qui nous importe d'une certaine façon. Et c'est aussi parce que aujourd'hui, les étudiants européens circulent d'université en université, apprennent forcément une ou plusieurs langues pour pouvoir continuer leurs études, que peut-être effectivement cet intérêt pour les traductions de l'époque de la Renaissance ressurgit, cet intérêt aussi pour les réseaux, parce qu'il y a aussi en même temps que la question des traductions, la question de qui parle avec qui, en quelle langue, comment se transmettons des savoirs, et tout cela c'est un travail que les historiens des sciences en particulier, ou les historiens de la Renaissance et les historiennes de la Renaissance font ces temps-ci.
Oui, alors, il me semble que cette question des langues et des traductions est en effet une question fondamentale. Hein, et elle l'est à différents titres. Il me semble qu'il faut tout de même rappeler ici aussi un certain nombre d'évidences. La première de ces évidences étant que dans le monde lettré, une langue commune, le latin, est en train de se dissoudre dans un certain nombre de langues vernaculaires qui sont des outils politiques des États en formation. Voilà. Dans, j'allais dire, dans la vie réelle, évidemment, vous comprenez ce dont je veux parler, le multilinguisme est un phénomène de la vie quotidienne.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'intéresse autant aux marchands des ports,
absolument,
aux marchands vénitiens, aux marchands italiens, aux marchands lombards ou aux marchands flamands, parce qu'effectivement, c'est une pratique quotidienne pour eux que de travailler avec des gens qui ne parlent pas leur langue.
Voilà. Et du coup, en effet, se posent là des questions qui sont extrêmement intéressantes, qui ne sont pas toujours documentées par les archives, là pour le coup, hein, autour de comment concrètement je communique avec quelqu'un qui est, par exemple, un marin chinois.
Voilà. Et comment on lui fait confiance?
Alors,
aussi,
sur la question de la confiance, là, on ouvre un pan extrêmement fascinant. Vous savez que les travaux de Francesca Trivelato...
Bien sûr, on en parlait récemment ici.
Absolument. Montrer l'importance d'une analyse extrêmement fine de ces dispositifs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour des gens qui travaillent sur l'histoire des sciences et des savoirs, ces questions sont des questions fondamentales.
Alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, vous semblez dire, ou elles étaient, disons, plus marginales et qu'elles sont devenues centrales?
Non, elles l'étaient uniquement, je dirais, du point de vue de l'histoire des milieux lettrés. C'est un peu ce que dit Uri Goldman, à savoir que dans les milieux lettrés européens qui sont confrontés à cette multiplication des langues vernaculaires et qui la supportent, qui la soutiennent, la réflexivité sur l'acte de traduction a été un point central de leur programme. En fonction d'un fait qu'il ne faut pas non plus tout à fait oublier, qui est que dans la période qui nous occupe, en Europe, la philologie est est sans doute le domaine d'articulation de programmes de travail central. Et le domaine central, pardon.
Victor Massé-Léfiné.
On a évoqué le rôle politique de l'édification du monument royal de la langue française. Et vous avez parlé, Uri Goldman, de l'intérêt commercial aussi qu'il y avait dans ces traductions, puisque ces traductions étaient destinées à être commercialisées. Et donc, peut-être que cet argument économique présidait au choix de telle ou telle traduction. Mais tout de même, la traduction pose aussi la question des acteurs de la traduction. Qui est-ce qui traduit qui est-ce qui traduit à la fois les auteurs classiques, mais ces auteurs de ces récits de voyage ou ces relations du monde, et pourquoi est-ce qu'on les traduit?
Sur la question de qui traduit, effectivement, il y a à la fois une grande diversité et en même temps, ce dont on se rend compte, c'est que justement, finalement, ces traducteurs, ils ressemblent un peu en partie à ces voyageurs, ces marins, ces passeurs, c'est-à-dire qu'ils sont souvent justement à la croisée entre des mondes sociaux, des mondes lettrés et des mondes du commerce, de la marchandise.
Et c'est pour ça qu'il nous fascine aussi aujourd'hui. C'est pour ça que, d'une certaine façon, cette histoire-là nous intéresse. On se dit, mais qui sont ces gens qu'on a peut-être un peu longtemps négligés, oubliés, qui sont restés dans l'ombre et dont on redécouvre les silhouettes dès qu'on va les chercher aussi, c'est cela?
Oui, c'est lié plus généralement à un mouvement historique qui est bien ancien, évidemment, hein, d'aller derrière les grandes figures, hein, et pas forcément pour les dépasser, hein, parce que, évidemment, que la réflexion d'un Montaigne, elle reste d'une impressionnante complexité et intérêt, mais pour voir que derrière ces figures-là, pour comprendre, en fait, dans quel contexte ils écrivaient et pourquoi ils écrivaient ces textes et quel était leur impact, il faut restituer l'ensemble, en fait, du monde social auquel ils répondaient, avec lequel ils interagissaient, et c'est ça, peut-être, qui est le plus intéressant, non pas essayer d'élever des auteurs qui seraient mineurs en disant qu'en fait on les a oubliés parce qu'ils seraient majeurs, mais comprendre qu'ils étaient les interlocuteurs de ces auteurs que nous on voit comme des auteurs majeurs.
Mais alors sur cette question économique, est-ce que c'est d'abord, on traduit d'abord ce qui peut se vendre ou ce qui peut circuler, ou est-ce qu'il y a quelquefois d'autres intérêts, des intérêts j'allais dire purement scientifiques ou purement religieux peut-être?
C'est assez difficile à dire, d'autant plus qu'effectivement on peut penser que les acteurs avaient évidemment une volonté de gain commercial, mais il n'est jamais assuré. Et puis finalement, on peut, même si les choses ont bien changé, on peut comparer avec ce qui se passe aujourd'hui dans les maisons d'édition. C'est-à-dire qu'il y a certaines traductions, il y a certaines publications dont on sait qu'elles ne rapporteront pas forcément de l'argent, mais elles rapportent plutôt un capital symbolique, culturel, parce qu'elles vous placent comme étant un imprimeur, un libraire important, qui sont compensés par d'autres publications dans la même maison d'édition qui rapporteront et qui permettront de financer les deux.
En fait, ce que disent tous les éditeurs quand on les rencontre aujourd'hui, on publie une édition un peu savante, mais on va publier un homme ou une femme à la mode aujourd'hui parce que ça permettra de financer les futures éditions savantes. Et voilà, c'est déjà la mécanique à l'œuvre.
Pour certains, il y a ces stratégies-là, effectivement, tandis que d'autres imprimeurs libraires de l'époque se spécialisent assez directement dans les feuillets d'actualité, les choses qui sont les plus rémunératives, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interactions et des passerelles plus fines en fait entre les deux que ne le supposait avant l'histoire par exemple de la Renaissance.
Je dois reconnaître que désormais quand je monterai la montagne Sainte-Geneviève, je penserai à vous parce que vous m'avez fait découvrir Michel Levascozan par exemple, grand libraire éditeur de cette période-là et sa boutique, et je me dis effectivement quand on passera par là, on pourra imaginer, bon j'imagine que la boutique n'est plus là et que l'immeuble lui non plus n'est plus là, mais ce qu'était ce foisonnement d'endroits où se mélangeaient justement les éditeurs, l'éditeur qui était Michel Levascozan et les traducteurs qui venaient l'y aider, ses clients aussi qui étaient ses clients de boutique. Je me dis, c'est quand même extrêmement excitant ça aussi.
Effectivement, pour rappeler peut-être des choses qui ne sont pas forcément qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Donc à l'époque à Paris, un des quartiers des imprimeurs, notamment des imprimeurs justement qu'on a souvent qualifié de savants d'universitaires, ils sont basés autour de la rue Saint-Jacques. Ce Michel de Vascosan,
près des collèges.
Voilà, actuellement c'est le Collège de France. Hein, sa boutique était près du Collège de France. Et justement pendant longtemps, dans une histoire assez classique de la Renaissance, hein, ils étaient vus comme les grands imprimeurs de la Renaissance. Par exemple, ce Vascosan, c'est celui qui fait imprimer la traduction de Amyot, de Plutarque. Hein, donc voilà, l'humanisme classique. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans sa boutique, il y a aussi effectivement des livres qui traitent
d'actualité.
Des Portugais en Inde, des Espagnols au Nouveau Monde.
Et qu'il traduit à 2 ou 3 ans de distance traduit par rapport à la publication dans la langue
d'origine. Voilà, qui traduit assez rapidement parce que justement, il s'appuie sur un réseau d'intermédiaires qui ont pu aller au Portugal ou qui ont une connaissance de la langue castillane qui lui permettent d'offrir à ses lecteurs ces types de nouveautés.
Antonia Romano.
Oui, juste un mot pour prolonger cette réflexion. Voilà, il me semble que ce qu'on vient d'écouter dans la présentation d'Uri Goldman, décidément, ça nous permet de comprendre comment on a changé l'agenda de la recherche, en gros jusqu'à il y a 20 ans, ou en tout cas ce dont nous venons, c'est d'études absolument fondamentales sur les liens entre humanistes et imprimeurs. Mmh. Alors, autour d'Erasme, il y a eu un travail absolument colossal.
Des imprimeurs lyonnais, par exemple.
Autour des imprimeurs lyonnais, etc. Là, le déplacement qui est proposé ici, il permet véritablement de repenser de manière simplement plus complexe les liens entre dispositifs intellectuels, projets politiques, enjeux économiques et dispositifs techniques. Voilà. Et c'est un peu ça qu'on essaie de travailler avec les sources que l'on a. Juste un dernier mot. Les travaux d'histoire des sciences ont aussi beaucoup mis l'accent, mais pas que l'histoire des sciences et des savoirs, sur d'autres formes de la traduction, je dirais les formes plus vernaculaires de la traduction, hein, en prêtant une attention tout à fait spécifique à cette catégorie des intermédiaires, hein, ce que on a pu appeler pour le XVIIIe siècle les go-between, voilà, et où là la question de la traduction elle est traitée sur le terrain, hein, et du coup c'est un dossier qui vient compléter celui sur les traductions.
Avec mais parfois l'invention de nouvelles langues comme la lingua franca dans les ports de Méditerranée par exemple.
Absolument.
Un extrait de la Symphonie A3 de Marco di Galliano, compositeur florentin du début du XVIIe siècle, un extrait d'un ballet à la turque par l'ensemble Pera. Nous sommes dans la Fabrique de l'Histoire et nous vous parlons aujourd'hui de la mondialisation du savoir dans le cadre d'une série sur le vernis de la Renaissance. Comment peut-on pénétrer sous ce vernis de la Renaissance? Victor Massé de l'Épinay.
Oui, pour continuer un peu sur la traduction, on vient de parler des traducteurs, de ceux qui traduisaient du portugais, du castillan. Alors on peut dire leur nom, puisque on n'en parle pas souvent, Nicolas de Gourouchy ou Jean Poller, par exemple. À quel moment est-ce que des traducteurs ont commencé à traduire, à importer en France des savoirs plus lointains, puisqu'on parle un peu de mondialisation des savoirs aussi aujourd'hui. Je pense au savoir chinois, au savoir arabe. À quel moment est-ce que des gens ou des imprimeurs ont commencé à dire, tiens, il faudrait imprimer certains traités scientifiques, certains traités de navigation, certains traités...
Antonella Romano.
Alors,
vous qui avez travaillé sur les jésuites en Chine en particulier, avec ce très beau livre qui s'appelle « L'englobement du monde », donc « Impression de Chine » paru chez Fayard l'année dernière.
Oui, merci. Alors, à quel moment, il n'y a pas de date. Voilà, il me semble que il n'y a pas de date au sens où, en fonction des différents horizons et de leur entrée dans les... je dirais la cartographie européenne, voilà, et donc des préoccupations européennes, il y a des moments qui sont différents et puis qui vont se superposer et qui vont aussi du coup permettre d'envisager de nouvelles opérations qui sont celles de la comparaison des langues. Hein. Et ça, c'est un des éléments tout à fait intéressants et importants de la transformation du moment philologique de la Renaissance. Voilà. Donc, j'aurais tendance à vous dire, en fonction des lieux, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, dans le monde germanique, dans le monde britannique, tout ça, ça prend, les calendriers sont différents, les objets sont différents. On peut évidemment se dire que autour des années 1580, l'émergence de ces grandes collections des récits de voyage, par exemple en langue anglaise ou Ramuzio en Italie avant, puis dans le monde, enfin en Angleterre et puis ensuite en France, etc. C'est un bon indicateur et en même temps, ça ne dit pas exactement cette cartographie plus fine.
Voilà. Alors, il y a des questions qu'on peut se poser aussi que récemment. Samir Boubédiane posait dans son livre sur les colonisations des savoirs, c'est on découvre des savoirs nouveaux avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas forcément, pour lesquels on a évidemment des regards qui sont des regards particuliers parce qu'on considère que leur culture, comme on dirait aujourd'hui, ou leur civilisation sont des civilisations soit inférieures, soit différentes, etc. Comment valide-t-on ces savoirs, Antonella Romano ? Par exemple, si on va en Chine... si on découvre des savoirs techniques, des savoirs particuliers, médicaux, pharmacopées, je ne sais, comment fait-on pour que, quand on est un Européen, on se dise ben, « ce savoir-là, je peux l'intégrer à mon corpus de savoirs et de connaissances » ou au contraire, je vais le laisser en dehors. Est-ce qu'on a une petite idée de cela, Antonella Romano ?
Alors, premièrement, sur l'histoire de la colonisation des savoirs, on a une historiographie abondantissime, je voudrais vous le rappeler, pas qu'européenne du reste. Et de ce point de vue-là, le grand livre de Serge Kruczynski sur la colonisation de l'imaginaire est un de ceux avec Walter Mignolo, avec tous nos collègues postcoloniaux qui ont véritablement posé la question. Et j'y reviens parce qu'ils l'ont posé en lien avec les enjeux linguistique, avec la literacy, pour utiliser un mot qui n'est pas en langue française, je vous prie de m'en excuser. Premier point. Deuxième point, sur les modalités de la validation, et je pense que c'est là que l'histoire des sciences et des savoirs renouvelés a apporté des outils d'analyse, on est aujourd'hui en mesure de réfléchir sur les modalités à travers lesquelles se construit la validité. Alors, l'imprimé est un de ces outils absolument fondamentaux. Ça n'est pas le seul. Et je crois que tout ce que l'histoire du livre nous a permis de voir dans le sillage des travaux de Roger Chartier, bien sûr, sur la matérialité du livre et les outils de la validation par le paratexte, par exemple, c'est-à-dire le frontispice, c'est-à-dire les dédicaces, etc., c'est évidemment un des éléments tout à fait fondamentaux. Et on revoit bien ici le lien entre la mise en écriture, la formalisation de la mise en écriture qui permet une validation notamment sociale. Les dédicataires, évidemment, sont un des éléments fondamentaux de ce processus.
Henri Goldman, sur cette question de la validation des savoirs nouveaux, découverts en même temps qu'on découvrait de nouveaux terrains, de nouvelles terres.
Je pensais à un exemple qui réunissait un peu de nombreux thèmes qu'on a abordés. C'est justement une traduction qui sort dans les années 1550 chez ce Vascosan à Paris, d'un des premiers textes qui reprend ce titre de Pline d'Histoire naturelle. C'est l'Histoire naturelle des Indes d'Oviedo, qui est écrit en castillan, qui est traduit en français. Et justement, cet Oviedo, qui était un fonctionnaire de la couronne espagnole à Saint-Domingue et dans les Antilles, écrit une histoire naturelle où il décrit des nouvelles plantes et aussi des nouvelles, avec des savoirs issus de ses contacts avec les populations locales, qui se fait souvent sous la contrainte, sous une forme de colonisation des savoirs, qui du coup qu'il va valider par l'écriture de ce traité, et qui, cette validation, elle est quelque part rendue encore plus importante par sa circulation et sa traduction dans d'autres langues européennes. Donc on a là toute une chaîne qui fait qu'un acteur, dans un contexte local, qui essaye de se donner une autorité de savoir par l'imprimé, finalement est renforcé par ses pouvoirs de l'imprimerie et par la diffusion de ses livres via la traduction. Donc on a là quelque chose qui réunit un peu pas mal de processus dont on a parlé.
Et vous qui êtes spécialiste, en l'occurrence des jésuites en Chine, entre autres, Antonella Romano, par exemple, ces savoirs chinois, vous les voyez transcrits assez rapidement, ou vous les voyez au contraire laissés de côté? Vous comprenez comment certains sont transcrits et d'autres ne le sont pas, et ce qui se passe pour qu'on apprenne des autres certaines choses alors qu'on en rejette d'autres?
Alors, c'est évidemment une question tout à fait fascinante. Il me semble que pour y répondre, il faut un tout petit peu de rigueur chronologique, par exemple, pour pouvoir dire que lorsque Montaigne, puisque vous l'avez cité, va dans le cadre de son voyage à Rome, en Italie, à Rome, et qu'il visite la Vaticane, hein, on connaît tous maintenant ce passage dans lequel il décrit le livre chinois qu'il voit, au moment où lui voit ce livre chinois, il voit un objet. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure, et personne autour de lui du reste, à part les deux ou trois missionnaires qui rentrent de Chine, qui ont à peine commencé à apprendre le chinois, et ce sont des missionnaires jésuites, mais là je ne vais pas revenir sur mon livre, voilà, il voit un objet et il prend acte de l'importance d'une culture écrite. Voilà, c'est ça qu'il enregistre dans le journal de voyage. Après quoi, ou en parallèle, il y a un certain nombre, mais un nombre très certain, c'est-à-dire très petit, d'individus qui, en Europe, et en particulier puisqu'on parlait de Rome à Rome, sont en mesure de comprendre. Voilà.
On est quoi, au milieu du XVIe siècle?
Là, nous sommes dans les années 1580.
Oui, c'est ça. Hein,
dans les années 1580. Au moment où les Espagnols, les mendiants espagnols viennent de publier à Rome et à Madrid la première grande synthèse sur l'histoire du royaume de Chine, et eux-mêmes ne maîtrisant pas la langue chinoise. Voilà, c'est ça qui est tout à fait intéressant. Et du coup, autour de la question de savoir qui est-ce qui stimule les traductions, la papauté est un de ces acteurs importants, au même titre que les monarchies européennes, évidemment, pour des raisons qui sont liées, bien sûr, à un désir de connaissance, mais aussi aux enjeux concrets de l'évangélisation.
D'élargissement de la chrétienté.
Voilà, absolument. Et du coup, s'engager dans un travail d'apprentissage des langues, c'est quelque chose qui va se faire de manière progressive. Alors, vous parliez de la Chine, donc par rapport à la Chine, ça démarre dans ces années 1580, ça va se développer, et comme il y a en Chine des missionnaires qui sont présents, eux-mêmes amenés à interagir avec un empire qui a lui-même
ses propres lettrés.
Absolument, ses propres lettrés et ses propres besoins, engager les premières traductions de livres européens en mandarin et de traductions d'ouvrages chinois en latin.
Et là, on est plutôt au début du XVIIe siècle.
Voilà, on est entre l'extrême fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Et le moment de la sinologie européenne, ce sera le milieu du XVIIe siècle. Quand je dis sinologie européenne, c'est un monde de lettrés européens qui sont en mesure de commencer à maîtriser cette langue.
On voit bien combien cette question que nous abordons aujourd'hui, que nous avons abordée déjà avec vous, Antonella Romano, à propos de votre livre, mais avec d'autres auteurs relativement récemment, est une question fondamentale. Il faut dire peut-être à nos auditeurs que on se retrouvera tous, les uns et les autres, au mois d'octobre, à Blois, à l'occasion de RECA, donc les rendez-vous de l'histoire de Blois, qui va avoir pour thème justement cette question des savoirs, des techniques, des connaissances, de la façon dont ils se transmettent, et que c'est un moment assez important pour la communauté, comme on dit, des historiennes et des historiens, que de réfléchir ensemble, de discuter, de trouver un nouveau public aussi, pour leur faire part de ces nouveautés que vous avez dégagées dans vos travaux, dans vos séminaires, dans vos colloques, Antonella Romano.
Oui, ce qui est tout à fait passionnant avec les rencontres de Blois, c'est la possibilité, en effet, de pouvoir rencontrer tous nos collègues, pas uniquement ceux de la communauté des historiens, mais tous les gens ont envie de venir discuter pour partager avec eux ce que nous sommes très nombreux aujourd'hui à essayer de réfléchir autrement.
Victor Massé-Lépinet.
Non, mais il est trop tard pour se relancer dans un grand débat sur l'Église. Simplement une petite question pour Uri Goldman. Quand est-ce qu'on pourra lire votre thèse que vous êtes en train d'achever?
Bon, il me reste au moins un an avant de l'achever, et puis ensuite le processus de publication peut être très long, comme on le sait. J'espère bientôt.
sinon, il faut dire qu'on peut vous lire sur les bons sites qui recensent les articles que vous avez déjà publiés.
Je suis en cours de publication de certains articles, certains sont sur Internet, donc c'est assez facile de les trouver.
Et pour vous, Antonella Romano, rappelons que La Pression de Chine est publiée chez Fayard. Merci à vous deux d'avoir participé à cette discussion autour de la mondialisation du savoir à la période de la Renaissance. Quant à nous, on se retrouve demain pour conclure cette série et nous parlerons, Victor Massé-Lépinet.
Nous parlerons de la guerre à la Renaissance qui a été une période de guerre quasiment perpétuelle.
Et les guerres d'Italie en particulier avec deux invités. Cette émission, comme toutes les autres, était préparée par Aurélie Marcet et par Francesca Fossati. Dalia nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Vous voulez écouter ou réécouter cette émission, allez sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et également nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.